Alors, donc, mon cher Bruno, merci de me parler d'une lecture maussienne de Totem et Tabou et de te demander si elle est possible.
Il est une vérité de type anthropologique à laquelle Freud restera attaché jusqu'à la fin de sa vie, contre vents et marées, en dépit de la virulence des critiques venant d'éminents représentants de la discipline. Cette vérité anthropologique, c'est l'événement du meurtre du père par la bande de frères, sa réalité nécessairement présupposée dans l'évolution de l'espèce, présupposition qui tient au fait que cet événement a laissé des traces indélébiles dans le développement de l'humanité. Que ces traces indélébiles ne convainquent que les convaincus, que les sciences sociales concernées n'en fassent pas cas et n'y voient qu'une fiction, cela n'a pas fait vaciller la conviction du fondateur de la psychanalyse. Prenons la mesure du rejet essuyé. Il est compréhensible, si l'on considère la fragilité des données sur lesquelles la thèse était étayée, sa dépendance à l'égard d'une anthropologie d'inspiration fraserienne, combiné à quelques fragments de darwinisme, son plaquage sommaire de l'ontogénèse sur la phylogénèse et surtout sa reconstruction de la scène du meurtre et du repas totémique. Bref, tout converge pour qu'on ne voie dans Totem et Tabou rien de plus qu'une histoire comme ça, a just so story, selon une célèbre formule de Radcliffe Brown. Le jugement de Marcel Mauss, si ouvert soit-il au croisement disciplinaire, ne fait pas à cet égard exception. Dans la fameuse conférence de 1924 à la Société française de psychologie consacrée aux rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie, Freud est presque complètement absent. La réception du freudisme par l'école française, du reste, passe surtout, à l'époque, par l'usage qu'en faisaient les ethnologues, plus précisément Rivers, véritable pionnier en la matière dans ses études sur les rêves dans les sociétés primitives. Mauss, qui venait de rédiger la notice nécrologique de Rivers en 1923 pour la revue d'ethnographie et des traditions populaires, ne manque pas de le souligner. Mais précisément, la référence à Freud, qui émaille la conférence, retient l'attention. L'intérêt de la psychanalyse est reconnu, non pas tant pour l'étiologie des névroses ou la mise en lumière du complexe d'Œdipe, mais en accord avec ce qu'il lit chez Rivers, et aussi en suivant les études de Mourgue sur l'hallucination, pour la conceptualisation de la psychose, créditée de vues nouvelles sur l'articulation du social et du mental, et permettant de dépasser l'approche en termes d'idées fixes héritées de Janet. C'est cette notion, de fait, de psychose donc, qu'on voit à l'œuvre dans quelques grandes études de Mauss sur l'effet physique de l'idée de mort de 1926 et encore dans l'essai sur les techniques du corps de 1934. Ce qu'on peut retenir de cela, c'est que Mauss évoque la psychanalyse, en 1924 donc, en prenant une certaine distance avec Durkheim, pour qui Janet, conjointement à Ribot, demeurait l'appui majeur en psychologie. Mais justement, Mauss ne prononce en 1924 cet éloge ciblé qu'en condamnant sans appel Totem et Tabou. Je cite un de ses livres à système, à clé, dont il n'y a pas de raison qu'il ne se multiplie pas sans fin. Bref, l'intérêt de la psychanalyse, s'il existe, n'est pas du côté de sa prétendue théorie de la culture, celle dont Totem et Tabou est et reste le pilier. Cet intérêt existe, mais ailleurs, dans le domaine circonscrit des faits mentaux. Lévi-Strauss, à la suite de Mauss, ne fera que confirmer, accentuer cette lecture sélective, qu'il suffise de citer la conclusion des structures élémentaires de la parenté qui tranche entre le vivant et le mort dans Freud. Je cite, dans un cas, donc le bon Freud, on remonte de l'expérience au mythe et des mythes à la structure. Dans l'autre, le mauvais Freud, celui de Totem et Tabou, on invente un mythe pour expliquer les faits. Pour tout dire, on procède comme le malade au lieu de l'interpréter. N'y a-t-il donc rien à retenir lorsqu'on se place dans le sillage de l'école française de sociologie de ce livre compromettant, Totem et Tabou, d'un Freud devenu malade ou procédant comme ces malades? Pour en juger, il faut d'abord s'entendre sur ce qui s'énonce vraiment dans sa thèse cardinale. En particulier, ce qui doit être repris, c'est d'abord l'usage spécifique que fait Freud des termes de Totem et de Tabou, la torsion qu'il leur imprime en les important dans son discours, c'est-à-dire avant tout en les soudant l'un à l'autre. Rappelons qu'au moment où il écrit, on est en plein âge d'or du totémisme, cette période d'engouement dont Lévi-Strauss adressait après coup le portrait à la fois imposant et désuet d'impasse scientifique d'époque. Durkheim avait apporté, lui aussi, sa contribution au dossier. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, il en était venu à proposer une interprétation sociale ou sociologique de ce qui était vu alors comme religion première. Sa réfutation de Fraser revenait à dépsychologiser le phénomène pour le rapporter à l'existence et à l'affirmation du groupe comme tel. Le point décisif en débat était alors l'articulation du totémisme et de l'animisme. Là, surtout, Durkheim marquait son opposition à l'école anthropologique anglaise. C'est du totémisme comme incarnation et fixation de forces sociales sui generis qu'il faut partir pour voir émerger l'idée d'âme, idée qui se détache donc en se décollant des choses et des êtres socialement valorisés. Bref, on ne doit pas aller de l'animisme au totémisme, mais prendre le chemin inverse. Tout se jouait dans l'interprétation de l'ethnographie australienne de Spencer et Gillen, ethnographie dont Fraser et Durkheim faisaient des lectures opposées. Et il semble à première vue que Freud s'en soit tenu au premier, qu'il ait confirmé Fraser plutôt que Durkheim. On verra que c'est loin d'être le cas et que l'intérêt de l'interprétation freudienne tient dans le décalage introduit précisément sur cette question. Quoi qu'il en soit, avec Mauss, on est déjà sur la pente déclinante du paradigme. C'est que pour Mauss, le totémisme n'a plus rien d'une clé ouvrant toutes les serrures. Autrement dit, la critique qu'il assénait à Freud dans la conférence de 1924 ne concernait pas que Freud, mais à certains égards, Durkheim lui-même. Il n'est que de lire sa longue étude de 1908, la longue étude de Mauss, sur l'art et le mythe d'après Wundt. À l'axe de dérivation de Wundt, qui va de l'anémisme au totémisme et au tabou, Mauss se refuse à substituer un axe contraire. Il ne le retourne pas, il ne cherche pas une autre séquence. Son but, au contraire, est de développer une lecture synchronique et comparative qui permette de décrire les variations possibles du triangle que forment les trois termes, tabou, animisme, totémisme. C'est ce type d'approche, réticente à toute mise en séquence linéaire et évolutive, inspiration qu'on retrouve dans toute l'œuvre, qui fait encore la modernité de Mauss pour nous. Or, la question que je voudrais poser est la suivante. N'en va-t-il pas aussi, et pour la même raison, du livre le plus décrié de Freud? N'y a-t-il pas une avancée, une actualité du même ordre, dans la façon dont Freud nous introduit simultanément, sans dissocier les deux termes, mais au contraire en interrogeant avec obstination leur co-appartenance au totem et au tabou? Qui plus est, ne retrouve-t-on pas un indice de cette pertinence retrouvée de totem et tabou dans la façon dont il fait intervenir la question de l'animisme au cœur de sa démonstration comme l'unique moyen pour ressaisir la relation intérieure du totem et du tabou et le sens anthropologique que recèle cette relation? C'est ce que je voudrais maintenant examiner en relisant avec un regard donc maussien ce monument de la psychanalyse. Totem et tabou soulève un problème de trace, de spur. Mais cette trace n'est pas simple. On doit même admettre d'emblée, puisque Freud le stipule, qu'elle est double. Elle est double et elle est déphasée. Dans nos sociétés, les deux figures primitives du totem et du tabou n'ont pas disparu également. Le totémisme ne fait plus du tout sens pour nous, alors que le tabou existe toujours. On le retrouve logé au cœur de notre conscience morale, si du moins on la ramène à son noyau kantien d'impératif catégorique. Notre conscience morale fonctionne exactement comme fonctionnait le tabou. Le désir et la crainte de l'infraction s'y concentrent en un même point obscur. Pardon. La conscience morale n'étant que la perception de cette obscurité sous l'espèce du catégorique, catégorique dont la formalité est le signe d'un rejet qui s'impose par lui-même sans avoir à exhiber ses raisons, d'un interdit de franchir la ligne. Je ne m'attarde pas sur la perversion inouïe du kantisme qui se trouve impliquée dans cette reprise apparente. Le commandement de la raison pure pratique n'est confirmé dans sa formalité qu'à raison de sa radicale impureté, du caractère pathologique, au sens kantien du mot, de pathein inscrutable, dérobé à notre regard conscient. Ce que je retiens seulement, c'est qu'avec notre morale, un processus de type tabou est toujours à l'œuvre, mais pour lequel le mot manque. Et là où le mot ne manquait pas, chez les primitifs, on avait un système social qui était à la fois nommé et opératoire, système social totémique que l'histoire de la civilisation a laissé derrière soi. La logique des traces, on le sait, en psychanalyse, a une rigueur implacable. Même pour les traces imperceptibles, même pour les phénomènes apparemment intraçables, il faut insister. Car à la limite, ce qui subsiste, c'est encore l'effet de la disparition du phénomène, sa trace perceptible ou reconstituable à travers l'effort mobilisé pour produire son effacement. Admettons que la trace du tabou soit tangible, aisée à repérer, tandis que celle du totem ne l'est pas. C'est alors à la recherche de cette seconde trace qu'il faudra se lancer. Et en effet, toute l'audace du livre consistera en cela, une tentative pour découvrir la seconde trace, laquelle implique la permanence et l'héritage phylogénétique de l'événement originaire, le meurtre du père. Si le meurtre originaire vaut encore culturellement pour nous, ce qui est bien l'hypothèse la plus étrange de l'ouvrage, c'est que la trace impalpable du totem se tient sous la trace tangible et assurée du tabou, et donc que la disparition complète du totémisme, mots et choses compris, laisse tout de même une trace, mais une trace d'un autre genre que la première. De quel genre ? Reprenons le problème posé plus haut. Si le mot de tabou, mais pas la chose, s'est effacé, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Ce qui est arrivé a trait à la forme et à l'intensité de l'ambivalence affective. Dans un système où les lois totémiques n'ont plus cours, le réseau des relations adéquats à l'ambivalence tabou s'est considérablement élargi et par là, c'est aussi considérablement indéterminé. C'est cela, au fond, qui est arrivé à travers l'inscription du tabou au cœur de l'interdit moral. Nos jugements moraux s'exercent dans une pluralité indéterminée de relations. Nous vivons notre vie comme un tissage de relations morales en transportant l'ambivalence tabou sans la dire, celle qui n'est plus accrochée à certains types d'êtres, ces êtres que le système totémique, précisément, permettait de fixer et d'individuer. Dès lors, la méthode d'enquête s'impose d'elle-même. Il faut partir de l'ambivalence de la plus haute intensité, de la co-appartenance du totem et du tabou, pour voir de quoi elle est faite si l'on veut comprendre ce qui nous est arrivé, nous qui reposons socialement et individuellement sur le seul fond obscur du catégorique. La fameuse hypothèse du meurtre découle de cette exigence. Reconstituée à partir du meurtre du père de la Horde, repérable chez Atkinson ou chez Darwin Atkinson, l'ambivalence primitive, de très haute intensité, se conçoit comme une première projection, une première liquidation du conflit psychique, la projection du père mort sur l'animal. Du coup, on comprend aussi ce que recouvre la disparition du totémisme, non pas simplement l'effacement de la segmentarité exogamique, mais l'élision de l'animal comme instance projective et comme aliment du repas sacrificiel en commun. Et toutefois, si on s'en tient là, on manque encore l'essentiel. Car que veut dire « projeter » dans ce cas ? Ne risquons-nous pas de voir les primitifs à notre image en leur attribuant ainsi un mécanisme projectif dont nous comprenons trop bien, dans les termes de notre conscience morale, la nature ? La trace tangible du tabou est utile, indispensable même, mais elle comporte un piège. L'émotion de désir contradictoire qui font l'ambivalence, le primitif, les ressent-ils comme nous les ressentons ? Et les ressentant comme il les ressent, comment les projette-t-ils ? Le coup de force ethnologique et pas seulement psychanalytique de Freud réside, à mon sens, ici. Sur ce point, je voudrais souligner qu'il ne déroge en rien au cahier des charges maussien énoncé dans la conférence de 24 sur les rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie. Car il se garde expressément, comme il le dit, de psychologiser les primitifs. En l'occurrence, il se garde expressément de les considérer à l'image des névrosés, ces sujets très modernes qui vivent et déclinent à leur manière les pathologies de la conscience morale. L'analogie de totem et tabou recèle un écart que ses contempteurs, jusqu'à Lévi-Strauss compris et son jugement que j'ai rappelé dans les structures élémentaires, n'ont pas vu ou pas voulu voir. Si on lit avec attention, on s'aperçoit que c'est précisément ce que nous nommons conscience que Freud se refuse à exporter de façon incontrôlée d'une ère culturelle à l'autre, tout au moins si nous ramenons la conscience à l'idée, je cite, de perception interne renforcée. C'est là précisément qu'il nous est interdit de postuler, c'est cela précisément qu'il nous est interdit de postuler dans le cas primitif. Dans ce cas, il faudrait plutôt s'exercer à concevoir autre chose, une intériorité où sentiments et pensées interviennent, non comme des processus endopsychiques, mais seulement comme des informations en termes de plaisir et de déplaisir provoquées par des stimuli affluant du dehors et servant comme tels à représenter le monde extérieur. L'ambivalence affective de haute intensité devient alors très étrange et son portrait plus fécond qu'on ne pouvait le prédire. Elle emporte avec elle une autre configuration de l'intériorité que la nôtre, en même temps qu'une autre représentation de l'extériorité. Ou encore, la projection primitive est projection de sentiments et de pensées où l'intérieur, parce qu'il n'est perçu qu'en réaction à l'extérieur et par conséquent parce qu'il n'en est pas distingué comme perception interne, peut vraiment se projeter au dehors et constituer ce dehors en réalité. Voyons les choses d'un peu plus près. En somme, ce qu'on aborde à ce stade, ce n'est rien d'autre qu'un topos ethnologique majeur qui vient compléter le triangle que j'ai rappelé. On adopte maintenant une perspective inédite sur la question controversée de l'animisme. Enfin, tout se passe, à mon sens, dans ce qui est le cœur du livre, le chapitre 3, intitulé « Animisme, magie, toute puissance des idées ». D'ordinaire plutôt négligé, ce chapitre. Dans ce chapitre, l'animisme est reconduit à son ressort projectif depuis les opérations magiques qui sont à son principe. Pas d'animisme sans magie, donc. Or, si la magie est possible, ce n'est qu'à condition d'admettre une vision de l'acte à laquelle on n'est pas accoutumé. Sous quel aspect l'acte, cet acte qui comparaîtra à la toute fin du livre comme la résolution goethéenne de l'énigme, hein, au commencement était l'acte, que citait hier Alain Berthoz. L'acte ressaisi à ce point d'affleurement magique n'est pas tant une instance pratique mue par la volonté que quelque chose qui se manifeste comme le premier substitut du désir. Ou encore, la magie repose sur une surestimation de l'acte. Expliquer cette surestimation, c'est alors dire ceci. La toute-puissance avérée dans la magie dénote que l'accent psychique s'est déplacé du désir sur l'acte censé le réaliser. Il s'est transposé de la fin visée sur le moyen pour l'atteindre. En cela, l'acte magique est comme un jeu, un relais purement sensoriel de la satisfaction qui consiste non à faire semblant, l'enfant qui joue ne fait pas semblant, dit Freud, mais à faire ressemblant, c'est-à-dire à réaliser le désir en tant qu'acte. L'animisme puise incontestablement à cette source, magique, à la source du jeu et de la toute-puissance dans le jeu. Pour autant, l'animisme ne s'y résume pas. La projection animiste ne s'affirme que quand on dépasse la magie, que quand prend sens le paradoxe ou l'oxymore de ce qu'on pourrait appeler une toute-puissance relative. Le corps et l'esprit se séparent pour que des esprits prennent forme, âmes et démons auxquels l'individu prête non ses désirs, mais ses actes, c'est-à-dire ses substituts de désirs, qu'il cherche à influencer de différentes manières. Par là, le primitif animiste agit en quelque sorte sur lui-même, à travers ses actes, mais ses actes produits hors de lui, par d'autres êtres que lui. Si une telle projection a eu lieu, c'est donc forcément qu'a eu lieu un certain renoncement, le lien intérieur de l'animisme au totémisme apparaissant ici avec évidence. Il faut supposer la mort du père pour que la projection animiste soit elle-même possible et pour qu'on n'en reste pas à la toute-puissance magique. Autrement dit, le meurtre du père est le présupposé nécessaire si l'on veut comprendre le dépassement auquel procède l'animisme. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'acte de tuer le père est un acte d'avant tous les actes. Il se situe au même niveau que l'acte magique, à ce stade où la toute-puissance ne s'est pas encore relativisée, c'est-à-dire où le primitif n'a pas encore renoncé. Mais il s'en distingue en ce qu'il déclenche la restriction animiste. Restriction qui ne conduit pas à une puissance moindre, mais à une toute-puissance exercée dans le moment même où elle est relativisée. Notons que c'est ce qui autorise Freud à dire, de façon provocatrice, qu'avec l'animisme, l'espèce humaine a peut-être accompli son plus grand progrès. L'expression est très forte, il n'y a pas de progrès plus grand que la première restriction. Par l'animisme, l'espèce a accédé au rang de culture primitive, pour parler comme Taylor, et donc, génériquement, au rang de culture tout court. mais elle y a accédé tout autrement que Tyler ou Fraser le croyaient. Elle y a accédé par un acte social de restriction dont on vient de voir le paradoxe. Par là, les primitifs ont élaboré le système social dans lequel leur renoncement puisse se vivre sur un mode qui nous est très difficilement compréhensible. Ce système est un monde peuplé d'esprits qui, à la fois, porte la toute-puissance du primitif et la bride. Voilà en quoi on a de l'ambivalence. Et de l'ambivalence de très haute intensité. Les impulsions cruelles chez le primitif peuvent se réaliser dans les restrictions même qu'il s'impose, puisque c'est bien sa pensée, agie et par la satisfaite, qui s'érige en face de lui, dans une réalité où il se retrouve, où il est présent d'une certaine manière, puisque ce sont encore et toujours ses actes à lui qui sont agis par un autre que lui. Restreint, dit Freud, le primitif n'est pas inhibé. Ces restrictions sont par elles-mêmes, et en tant qu'elles sont des actes qui se donnent comme l'étoffe de ses pensées, des compensations au renoncement qu'il a concédé. Toute ambivalence, dit Freud, se ramène à la structure logique suivante. Un membre de l'opposition est inconscient et est tenu refoulé par l'autre qui s'impose par la contrainte. Une citation. La contrainte, par conséquent, est consciemment perçue, que ce soit dans le tabou des primitifs, dans la névrose obsessionnelle ou dans l'impératif catégorique des modernes. Freud résume encore les choses ainsi. Le courant positif d'émotions de désir est inconscient et le courant négatif qui les réprime est conscient. Or, dans ces conditions, on peut dire que l'ambivalence est à sa plus grande intensité lorsque les deux courants trouvent, comme chez les primitifs, un point de coïncidence. Lorsque le négatif et le positif se convertissent l'un dans l'autre et échangent leurs propriétés. Ce qu'on croit être, de notre point de vue de civilisé, une confusion, est en fait une conversion qui a sa rigueur propre, une structuration d'un autre type. Ce qui permet cela, c'est précisément la structure de l'acte que j'ai décrite, la permanence de la toute-puissance des pensées, et donc le fait que l'instance répressive à quoi on a renoncé est un prolongement de nous-mêmes qui satisfait notre désir. À ce niveau, on peut même aller jusqu'à dire que l'inconscient se manifeste en tant que tel, en tant qu'inconscient, dans la conscience elle-même. Tel est le paradoxe de cet acte étrange dont les primitifs sont les représentants. Mais justement, il nous paraît étrange parce que nous n'en sommes plus là. En nous, l'ambivalence a un autre visage, elle a donné lieu à une autre création de substitution. Sous l'animal totémique imprégné d'esprit, le mort a grandi jusqu'à le renverser. Ce qui se projette, ce n'est plus alors que l'instance pour laquelle nous avons renoncé. Ce n'est plus que le père que nous avons tué. Le négatif agit, et il agit sans nous, pour nous réprimer. Gros de tout ce que nous lui avons cédé, il a conquis son indépendance à nos dépens, ce qui a pour conséquence essentielle que notre hostilité à son égard peut de moins en moins s'exprimer, c'est-à-dire qu'elle peut moins s'exprimer comme interdiction pourvoyeuse de satisfaction. Au bout de l'histoire, on se trouve en présence d'un Dieu qui se nourrit de notre tendresse et de notre tendresse seulement, un Dieu qui nous aime et que nous aimons, et à l'égard duquel nous pouvons d'autant moins adresser nos pulsions hostiles que l'amour est la force exclusive par laquelle il les réprime plus radicalement. Ce Dieu n'est plus un esprit ou un démon, il est littéralement Dieu le Père, en trois mots qui s'enchaînent d'un même souffle, mort sans doute à cause de nous, mais d'autant plus puissant que le souvenir de sa mort s'est modifié dans l'inconscient jusqu'à nous empêcher de le haïr. Dans ce système, l'animisme comme le totémisme passe au second plan. Une religion s'érige à distance de notre système social puisqu'elle ne laisse plus subsister qu'une morale portée par chaque individu en son fort interne. Celle-ci repose pour partie sur les nécessités sociales reconnues, et pour partie sur le sentiment de culpabilité de repentir individuellement éprouvé. Le repas en commun sacrificiel des primitifs, la fameuse hypothèse de Robertson Smith, qui a tant fasciné Freud, est alors loin de nous. En tant que repas, il s'agissait encore d'une victoire sur le père tué. Il garantissait au groupe tout entier une satisfaction collective qui doit maintenant être retrouvée par chacun. Le complexe d'Œdipe est ce terrain individuellement reproduit dans lequel se décide le fait que chaque individu y arrive ou pas, et n'y arrivant pas devient ou non névrosé, c'est-à-dire élabore, à un niveau civilisationnel avancé, des créations de substitutions alternatives à celles que la civilisation a mises en place pour tous. une morale faite d'impératifs radicalement démagifiés, hein, c'est ce qu'on a mis en place pour tous, et une religion où la foi, le credo sed quia absurdum, a remplacé la toute-puissance des pensées. Hein, et après tout, le credo est aussi obscur que l'impératif catégorique. Revenons alors à Mauss et à l'école française de sociologie. Durkheim et Mauss avaient eux aussi tiré de la lecture de Robertson Smith bien des arguments. L'ambivalence du sacré, thèse fondamentale du durkheimisme, y avait trouvé son principal appui. Et cependant, la critique adressée au schème sacrificiel du repas était aussi un élément essentiel des recherches de Mauss sur le sacrifice, hein, ces recherches menées en collaboration avec Huber en 1899. Je rappelle que la critique maussienne revenait à refuser au sacrifice communiel son statut d'origine et de matrice, et du même coup à récuser toute dissolution du rite sacrificiel dans le cadre général du totémisme. Au contraire, de façon très audacieuse pour l'époque, Mauss visait à faire du sacrifice un opérateur de circulation. Mauss et Huber, hein, visaient à faire du sacrifice un opérateur de circulation entre deux régions de l'expérience, entre deux mondes séparés mais corrélés et n'existant qu'en relation l'un avec l'autre, lien établi justement par l'intermédiaire d'une victime et par l'intervention du sacrifiant. En accord avec les recherches parallèles de Robert Hertz, c'est à l'étude des polarisations structurant la vie sociale dans sa continuité que l'essai sur le sacrifice était ordonné. Dans cette mesure, on peut dire que le sacrifice aussi se laissait lire à l'intérieur d'un dispositif formel, ouvrant à une comparaison réglée des différences entre systèmes religieux et moraux. Chez Freud, la critique est plus discrète et Robertson Smith est célébré comme un grand découvreur. Mais il faut bien voir toutefois que le phénomène limite que Robertson Smith a mis en lumière ne vaut que comme l'indice de ce que nous ne pouvons pas produire et non pas de ce qui se serait conservé dans notre système. De sorte qu'en toute rigueur, il est impropre de dire que les primitifs seraient les premiers coupables de l'histoire humaine, déployés sur une ligne continue qui nous rattacherait à eux et selon un schème univoque de la culpabilité. Le déphasage des traces délivre une toute autre leçon. Car pour que cette histoire se trace linéairement, il eût fallu, non qu'on puisse juger des actes des primitifs à l'aide de nos catégories, mais qu'eux-mêmes aient pu en juger selon les leurs. Il eût fallu que leurs pensées se détachent de leurs actes comme la nôtre se détache de nos actes. Ou encore, ce qui revient exactement au même, que leur inconscient se manifeste sur une autre scène que celle de leur conscience. Et donc que leur répression ne corresponde déjà plus à leur satisfaction. Précisément, le dispositif sacrificiel limite de Robertson Smith permettait que ce ne soit pas le cas. Mais c'était sans compter sur les nouvelles créations engendrées par la dynamique de l'ambivalence affective. C'était sans compter sur les ressources du souvenir inconscient du père mort défaisant les esprits, animaux et démons où il s'était projeté. C'est ainsi que le tabou, se modifiant sans rien perdre de son ambivalence constitutive, mais l'atténuant dans sa perception consciente, l'hostilité étant toujours plus activement réprimée, a fait tomber le totem. Et que, plutôt que de dire tabou, nous disons interdit moral. J'espère vous l'avoir montré. Il y a donc, dans Totem et tabou, comme logé en lui, un dispositif comparatif puissant. On est en présence d'une production de la science moderne, avec cet écrit décrié de Freud. De la science moderne qui engage, au même titre que tout autre dispositif de science sociale, une auto-analyse des modernes. L'anthropologie maussienne, ou plutôt la socio-anthropologie maussienne, dans cette mesure, ne doit pas ou ne devrait pas le renier comme elle l'a fait. Au plus près de nous, ce qu'on voit se détacher comme un changement d'orientation dans la triangulation totem-tabou-animisme, ce sont des religions, les nôtres, où il y a des dieux pères et où, à la substitution de l'animal au père tué par nous, succède une substitution du père restauré par l'animal vaincu par lui. Voilà ce que le déphasage des traces, bien lu, permet de voir. Et l'hypothèse du meurtre devient par là pleinement heuristique en sciences sociales. Au nous unis dans le meurtre, succède le collectif distribué d'une humanité qui se moralise en chacun de ses membres, sans victoire collective, mais avec des batailles individuelles, partiellement gagnées ou perdues. Quant à celles qui sont perdues, on les appelle névroses. Et en elles, on voit mieux que dans les autres ressurgir des pratiques qui rappellent quelques traits, mais seulement quelques traits, et à certains égards inversés, puisque liés à une modification décisive du triangle, du fonctionnement primitif. Cette lecture maussienne, j'aimerais pour finir la pousser, s'il me reste 3 minutes. Très bien. La pousser, ça suffira. Jusqu'à interpréter les fameuses dernières pages de Totem et Tabou, à propos desquelles tant d'encre a coulé en psychanalyse. Cela me permettra de boucler la boucle, en quelque sorte, et de parler non plus ethnologie ou anthropologie, mais psychanalyse. On le sait, ou du moins tous les lecteurs attentifs de Freud le savent, le livre finit de façon énigmatique sur une réserve concédée par Freud. Celui-ci ne sait pas ce qu'il doit vraiment conclure. Et au fond, l'accent final du livre, lui aussi, ressemble au déplacement d'un désir sur un acte. Un acte, cependant, tout à fait conforme à nos manières de penser. Un acte émanant d'une décision mûrement réfléchie qui sait ce qu'elle a de risqué, sinon d'impossible à fonder. Un acte, donc, justifié en absence d'absolue certitude qui tient dans cette assertion, c'est Freud qui parle, « Je suis d'avis de poser au commencement était l'acte ». Assertion goethéenne, l'action et non pas le verbe, l'action et non pas la parole comme expression d'une pensée. L'acte du meurtre n'est pas un mythe fondateur que le psychanalyste aurait été amené à forger en articulant sa théorie des transformations psychiques dont les cultures procèdent, mais c'est un événement au sens strict. Le voir comme un acte ainsi, cependant, est une décision de Freud. En quoi cette décision n'est-elle pas immotivée ? Elle ne l'est pas pour autant que l'on juge des primitifs selon leur catégorie et non selon les nôtres. Le raisonnement est alors le suivant. Si nous consentons à appliquer au meurtre du père leur catégorie d'acte et non la nôtre, alors non seulement nous pouvons, mais nous devons consentir à ce qu'il ait bien eu lieu dans le passé de l'espèce. On rejoint ici la thèse scandaleuse du livre, son côté « Histoire comme ça ». Dans le système de coordonnées que Freud pense avoir reconstitué, ce que les premiers hommes ont pensé, ils l'ont fait. Et or, puisque ceux-là même qu'on a conçu comme devant être leur premier acte, ils n'ont pas pu ne pas le penser, il est clair qu'ils n'ont pas pu non plus ne pas le faire. Mais la réserve est-elle pour autant levée ? Le problème n'est pas qu'il l'ait fait, mais que, l'ayant fait, nous ayons part à ce même passé en faisant ce que nous faisons. Ce qui a disparu avec le totémisme, c'est précisément ce genre d'acte. C'est là le gouffre infranchissable. Toute la discussion sur l'animisme n'a rien fait d'autre que de le montrer. Et pourtant, il y a bien une trace du totémisme tout de même, pour intangible qu'elle soit. Cette trace, ce serait ce qu'on a vu être la variation majeure dans l'économie du triangle totémisme, tabou, animisme. C'est ce qu'on doit appeler notre inversion de l'animisme, qui s'exprime dans l'attribut dont nous parons le fait penser, comme un acte qui se manifeste ailleurs que là où se trouve ce qu'on appelle des actes. Nous ne pensons plus l'animal, nous ne pensons plus le totem, ce qui veut dire que nous ne pensons plus ensemble sur un mode raccordé à l'action par le biais encore solide de la toute-puissance des pensées. Nos pensées ont admis un autre pôle d'attraction, le père, sur lequel notre puissance a radicalement cédé, sur lequel l'action n'a plus prise, comme ce pouvait encore être le cas dans le repas commun totémique. On doit alors décrire en quelque sorte les choses ainsi. En se retirant, le totémisme a libéré la pensée dans sa séparation d'avec la réalité. Il l'a affranchie de la réalité. Et cet affranchissement est la seule trace, intangible par définition, qu'il a lui-même laissée, cette trace première sur laquelle ont pu se greffer les autres traces plus tangibles en provenance du tabou. Cela, le névrosé, cet être très civilisé, nous le laisse percevoir jusque dans son impuissance, ou plutôt dans la façon dont il cherche à convertir notre impuissance commune en un ersatz de puissance, qui vient cette fois buter sur la puissance inatteignable, non de l'animal totémique, mais du père restauré. Car pour lui, c'est la pensée qui veut tenir lieu d'acte, et non plus l'acte qui tient effectivement lieu de pensée. Et c'est ce qui peut autoriser Freud à dire qu'il agit quand même, non parce qu'il tue le père comme les primitifs l'ont fait, mais parce qu'il accomplit dans sa solitude asociale des actes qui nous rappellent que tous, sans exception, nous continuons à vouloir que la satisfaction de notre désir de meurtre trouve son débouché. Nos pensées, à ce titre, emportent bien des actes, bien qu'elles ne le soient pas, ou plus précisément parce qu'elles ne le sont pas. Tel est notre paradoxe de moderne, resitué que nous sommes dans ce triangle ethnologique érigé en miroir de nous-mêmes, de l'animisme, du totémisme et du tabou. Voilà, je vous remercie.
Merci.
Merci Bruno, car je pensais en t'écoutant que rares sont ceux qui peuvent se projeter et projeter un regard maussien, comme tu l'as dit toi-même, sur un texte tel celui-ci. Et je trouve ton exposé à cet égard fécond, parce que il pourrait rebondir dans un spectre d'analyse que nous avons à l'esprit en anthropologie, ou bien sûr. Alors, je vais poser une question brève. En songeant à l'aspect physiologie de l'action sur lequel je suis un petit peu instruit, tu dis « restreint le primitif n'est pas inhibé ». Alors, « restreint le primitif », bon, l'implicite, c'est parce qu'il est durkheimien, il est restreint. Je t'ai bien entendu.
Bon. C'est très juste. Bon. C'est l'idée que j'ai en tête.
Voilà. Ouais. Il n'est pas inhibé, mais il est doté de dispositions neurologiques, comme nous l'a expliqué Prochiant, qui n'ont peut-être pas l'étendue d'hommes ultérieurs, quoique dans les primitifs, ils sont bien voisins de nous, hein. Ils soient bien voisins de nous. Et l'inhibition est bien présente du point de vue de cette approche neurologique. Donc, ma question... alors là, elle n'est pas sur les rapports entre psychologie et psychanalyse, pardon, et neurologie. Elle est sur les rapports entre sociologie et neurologie. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas exclure les primitifs du monde social durkheimien sous prétexte qu'ils auraient connu une absence d'inhibition. Donc, comment, à travers les lectures que tu as commentées, penses-tu qu'il y aurait possibilité d'articuler la question de l'inhibition et la question de la restriction, enfin bon, tu m'as compris. Voilà. Donc, autre point que je signale, c'est un thème que tu as évoqué et que tu as même traité et qui était très présent hier, c'est la question du langage intérieur. Vous vous souvenez de la question obsédante chez Benveniste, terrassée et aphasique. C'était présent aussi chez Alvax dans son texte de 1946. Publié dans le journal de psychologie normale et pathologique. Donc, il y a là une trame, disons au moins un mot-clé de l'index du livre à paraître, qui permettra de nouer les différents exposés. Donc, merci infiniment. Nous avons quelques minutes pour quelques questions.
Je réponds ou...
Sur la question de l'inhibition, je te prierai de répondre. Oui. Parce que ça, c'est une vraie question.
Non, c'est une question qui m'importe beaucoup, donc oui. je tiens à te répondre. Elle est très... Tu as vu le point durkheimien, oui. Qui était presque... Enfin, oui. Qui était impliqué dans dans l'analyse que j'ai produite de la restriction et de la distinction avec l'inhibition. En fait, Durkheim est souvent... Durkheim, hein, là je parle de Durkheim et pas de Mauss, hein, puisque Mauss va d'un certain point de vue, essayer de frayer une ambiguïté durkheimienne. Hein. L'ambiguïté durkheimienne, qui n'est pas, à mon avis, une ambiguïté, qui est quelque chose qui s'est résolu progressivement dans son œuvre, hein, c'est l'idée que la sociologie ou le fait social soit individué, identifié essentiellement par la coercition et par la contrainte.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est la définition des règles, et c'est bien souvent dans les manuels de sociologie le signe auquel on se tient pour dire « là, il y a du fait social hein. ». On sent peser une contrainte. Or, d'abord, Durkheim avait pris soin de souligner que c'était méthodologique, hein, que, autrement dit, l'élément de la contrainte était... le moyen d'individuer le phénomène, d'isoler le phénomène, et pas nécessairement une détermination intrinsèque du phénomène. Hein. Bon, ça, c'était une précaution épistémologique dans un premier moment de son œuvre. Mais surtout, dans les formes élémentaires, justement, il arrive à une résolution. Il y arrivait progressivement dans ses travaux sur la morale, en fait, hein. Qui est de dire, au fond, mon objet, l'objet de la sociologie, si la sociologie a un seul objet, ça n'est pas la contrainte, hein, c'est ce qu'il appelle l'autorité. C'est-à-dire, alors sous le terme d'autorité, qu'est-ce qu'il a cherché à mettre ? Il a cherché à mettre un composé variable, et dont il faut étudier les variations, de désir et de contrainte. De désir et de contrainte. Et l'élément du désir, la désirabilité, hein, est essentiel à la constitution du fait moral comme fait social. Ça, c'est quelque chose qu'il réalise progressivement dans son œuvre. Or, ça a des implications théoriques majeures, ça. Hein, le fait de lire toujours désir et contrainte comme une polarité, justement. Une polarité dans laquelle les phénomènes particuliers viennent se situer, se graduer, s'inscrire. Or, pour moi, si tu veux...
C'est très clair. Tu
réponds, voilà, pour moi, la question de la distinction entre restriction, inhibition chez le primitif, donc restriction chez le primitif, pas inhibition, le fait que Freud ait pris soin de dire attention, hein, ce que nous appelons inhibition, c'est-à-dire un exaucement de la contrainte, hein, qui fait que c'est vraiment autre chose qui nous contraint, hein, est sans doute... une projection que nous devons nous garder de faire sur la réalité primitive. Alors, cet élément-là, cette réticence de Freud, qui est fondamentale, en fait, dans Totem et Tabou. Hein, on ne comprend pas Totem et Tabou, à mon avis, si on n'a pas ça. Et notamment, on ne comprend même pas les dernières pages, hein, les pages sur l'art. Hein, pour moi, c'est un signe d'un haut degré de... scientificité ou de souci de scientificité en termes de sciences sociales, ça. Tu vois ? En termes de sciences sociales.
Je t'entends bien et je te remercie parce que tout cela me parle tout à fait.
Je n'ai pas répondu sur la neurobiologie et sur le fait qu'il y ait de l'inhibition.
Mais ça sera le cas lors du jury de thèse, de la thèse dont je t'ai parlé, puisque.
D'après ce que j'ai compris de cette thèse dont on a parlé hier, elle est pleinement dans le
sujet qui vient d'être abordé.
Voilà.
Oui, il y a d'autres questions.